Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est effectivement le 12 avril 1961, il y a donc 50 ans, jour pour jour, Youri Gagarine passait 108 minutes en gravitation autour du globe, à 300 km de la Terre et à une vitesse de 28 000 km/h. Un exploit sans précédent que Franck Ferrand a choisi de nous refaire vivre cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce jour-là, le jeune soviétique Youri Gagarine et derrière lui tous les ingénieurs qui dans l'ombre œuvraient pour sa gloire ont ouvert de nouveaux horizons à tout le genre humain. Ce jour-là, ils ont fait mieux qu'accomplir un exploit, ils ont réalisé l'un des plus vieux rêves de l'être humain.
Alors si vous avez des souvenirs de cette époque ou bien si vous voulez poser des questions à Franck et à Alain Siroul, monsieur Science d'Europe 1, envoyez vos mails sur le site de la station ou vos messages sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire, nous y sommes au petit matin de ce 12 avril 1961.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est sans aucun doute une des photos les plus célèbres de tous les temps. Elle a été prise il y a 50 ans, jour pour jour, et présente le regard d'enfant joyeux, plein de vie, de santé radieuse, vous savez, les yeux presque bridés, la face lunaire, les pommettes saillantes, le petit nez de ce cosmonaute de 27 ans, engoncé dans sa lourde combinaison avec son casque rond comme un bocal, le sourire du camarade Youri Gagarine, image modèle d'une Union soviétique encore conquérante. Alors, que cache ce sourire? Que sait-on de cette fameuse journée qui devait marquer un tournant dans le destin de l'humanité? Quelle était sa part de lumière et quelle part d'ombre cachait-elle? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à la recherche de la vérité sur un exploit, sur un tour de force sans précédent. Nous sommes donc au cosmodrome de Baïkonour, en plein Kazakhstan oriental. Ce mercredi 12 avril 1961, il est 5h30 du matin quand le docteur Evgeny Anatolievitch est tiré du sommeil par la sonnerie de son réveil. Il se lève en soupirant, il reprend ses esprits, il fait quelques pas en direction de la cabine voisine où dorment encore deux jeunes hommes au visage insouciant, lequel des deux a rendez-vous avec la gloire, à moins que ce ne soit avec la mort. A priori, c'est le cosmonaute numéro 1. Anatolievitch les touche à l'épaule pour les réveiller. Ce cosmonaute numéro 1, c'est Youri Alexeïevitch Gagarine. Il sourit aussitôt. « Vous voyez bien que vos somnifères étaient inutiles », lance-t-il. Il a dormi comme un bébé. Il est vrai que ces cosmonautes ont été choisis pour leur santé parfaite, pour leur résistance physique, à toute épreuve, certes, mais aussi, et peut-être plus important encore, pour leur équilibre exceptionnel. Ils se couchent, ils dorment. On les réveille, ils sont déjà, enfin vous voyez, des sportifs quoi. C'est lui, le camarade Gagarine, que le sort a finalement désigné. Pour la première fois dans l'histoire, il est donc question d'envoyer un homme dans l'espace à bord du vaisseau Vostok. Vostok en russe, ça signifie « l'Orient ». Dans le passé, on a déjà envoyé dans l'espace des animaux, notamment la petite chienne Tsetsvotska, la petite étoile, à bord d'un vaisseau identique le 25 mars. Et puis 4 ans plus tôt, en 57, ça tout le monde se le rappelle, c'était une autre chienne, Laika, qui était déjà revenue de l'espace en pleine forme après un séjour à bord de Sputnik 2. Si un chien peut le faire, s'était dit Gagarine à cette époque, pourquoi pas un homme? Il lui faut tout de même se soumettre au test ultime, parce qu'en cas de défaillance, c'est le cosmonaute numéro 2 qui prendrait sa place. Ce n'est pas le moment de flancher. Alors consciencieusement, comme il a appris à le faire, le cosmonaute se prépare, il prend son petit déjeuner, de la pâte de viande et de la gelée de fruits, tout ça est présenté en tube, comme dans un tube de dentifrice. Oui, c'est ça. C'est un côté science-fiction, évidemment, dans cette histoire. En plus, vous imaginez, on est en 61, l'imaginaire collectif de toute la planète tourne autour de ces affaires spatiales. Après tout, on a marché sur la Lune d'Hergé, est encore tout récent. L'avant-veille, Gagarine avait dit à sa jeune épouse Valentina, qu'on appelle Valia, « Fais-moi ma valise avec du linge ». Et il avait ajouté « Je pars pour le cosmos », comme ça, comme histoire, comme s'il disait « Je vais faire un tour ». À 6h30, voilà Youri torse nu entre les mains des médecins pour un dernier examen physique. Ochim Haracho, tout est parfait, dit-il. Les praticiens sont d'accord, tout va bien, il a l'air en pleine forme. Le docteur Anatolievitch n'en attendait pas moins de son poulain. Cette fois, le camarade Yuri est fin prêt, il arbore déjà ce sourire qui va devenir célèbre. Plusieurs techniciens vont l'aider à ce moment-là à revêtir cette espèce de tenue plus qu'encombrante. Hein. C'est plus qu'une armure de chevalier, en fait. D'abord, la combinaison perforée qui permettra l'afflux d'air frais, puis celle de nylon et de caoutchouc, elle est bleu azur, destinée à amortir la pression sur la peau et le système sanguin en phase d'accélération intense. Des accélérations, il va en subir, Gagarine. Et puis, la panoplie anti-G à bande gonflable. Enfin, une sorte de survêtement métallisé à bande orange très, très brillante et qui est alimentée en électricité et en oxygène avec, par là-dessus, deux casques, le second étant pressurisé, le remplaçant le numéro 2 est revêtu exactement de la même tenue au cas où, hein, on se dit qu'il faut qu'il soit prêt aussi. Dehors les attend une sorte d'autobus spécialement équipé de sièges cosmiques avec des prises à oxygène et à électricité pour les scaphandres, parce que là maintenant c'est comme ça qu'ils respirent évidemment. Alors l'autobus démarre, on se rapproche de la fusée dont le nez déchire le ciel pur de Baïkonour. Plus on s'approche de Vostok 1 et plus on réalise sa très grande hauteur. Elle possède 6 moteurs de 20 millions de chevaux vapeur, cette fusée. Le camarade Yuri brille à présent de tous les feux orange de son scaphandre qui réfléchit les rayons du soleil matinal. Sur le tarmac, il retrouve les hauts responsables du cosmos soviétique, dont le technicien Sergueï Korolev, un homme de l'ombre celui-là, alors que lui-même s'expose en pleine lumière. Qui est-il du reste, ce Korolev? Il faut en dire un mot. C'est un fils d'instituteur ukrainien. Korolev est né en 1907 à Kiev, il a donc 4 ans au moment de l'envoi de Vostok 1. Ses parents ont divorcé alors qu'il était très jeune, ce qui fait qu'il a été ballotté par sa mère entre Kiev et Moscou. Il n'a fréquenté sérieusement l'école qu'après l'âge de 10 ans. Ça ne l'empêche pas d'être très brillant en maths, en physique. Et c'est un élève ingénieur très prometteur. Il est déjà concepteur de ses propres planeurs. Et il rejoint dès 1927 le groupement d'études pour la propulsion par réaction. Ça, c'est une sorte de club de passionnés de mécanique aéronautique qui voue un véritable culte au grand mathématicien Konstantin Tsiolkovsky, qui est l'inventeur du réacteur. Seulement, Staline, à cette époque-là, est en train de se hisser vers les sommets. La période n'est pas tendre pour les esprits tant soit peu indépendants. Et en mars 1938, Sergueï Korolev est dénoncé par un envieux. Vous savez comment ça se passe, c'est les purges staliniennes. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés et envoyé au terrible camp de Kolyma, à l'extrême est de l'immense pays. Alors à ce moment-là, sa mère intervient. Elle arrive à mobiliser en sa faveur plusieurs héros de la Première Guerre mondiale. Et finalement, on va libérer Korolev. Il rentre épuisé, squelettique. Il est toujours prisonnier, mais transféré cette fois dans les usines Tupolev. On est en pleine guerre, donc on a besoin de cerveau. En 1945, Sergueï Korolev sera envoyé en Pologne. Il est libéré à ce moment-là, puis en Allemagne, où les soviétiques ont fait main basse sur la base ultra-secrète de lancement des V2. Vous savez, le rêve final d'Adolf Hitler. Le patron de la base, Werner von Braun, a quitté les lieux quelques jours avant pour se rendre aux Américains. Il n'empêche, avec ce qu'il trouve sur place, Korolev et ses camarades parviennent à faire des progrès considérables dans la connaissance des fusées et de leur propulsion. Seulement, il travaille dans l'ombre, sous le sceau d'un secret mortel. Alors, pour amuser la galerie, le KGB a créé une sorte de fantoche, un physicien membre de l'Académie des sciences, totalement à la botte du régime et qui passe aux yeux de la presse et du monde pour le patron officiel du programme spatial soviétique. C'est lui qu'on crédite officiellement du succès des Spoutnik. Mais les vrais artisans de ce triomphe, ils doivent demeurer cachés, secrets. On comprend que Sergueï Korolev, quand il voit arriver les astronautes dans leur combinaison de lumière, est sans doute un pincement au cœur. Lui, il est toujours décrit pâle, anxieux, sérieux. Personne ne l'a jamais vu rire depuis son retour du goulag. Quel contraste avec le sourire enfantin du bon Yuri Alexeïevitch, sourire candide et qui paraît un défi à la moindre malchance. Rien ne peut arriver à Gagarine. Vous savez, il fait partie de ces gens qui ont la pêche, si je puis dire. Ce matin du 12 avril 61, On conduit donc Gagarine tout encombré qu'il est jusqu'au pied de l'échelle de coupé de Vostok 1. Il prononce quelques phrases qui ont sans doute été apprises par cœur, hein, parce qu'il y a tout, on est dans un régime très dictatorial. Suis-je heureux en partant pour le cosmos, déclare-t-il. C'est certain. Je vous dis au revoir à tous, comme se le disent les hommes quand ils partent pour un long voyage. Et le voilà qui grimpe. À présent, il se retourne une dernière fois, il salue comme ça avec sa main, il sourit encore et il pénètre dans l'ascenseur qu'il conduit jusqu'à son poste là-haut dans la capsule. À bientôt, dit-il avant de s'enfermer. Cette fois, c'est fini. Le voilà donc installé dans le fauteuil, moulé à sa forme, au milieu d'une forêt de boutons et de manettes. On vérifie les transmissions. Terre, il est encore à terre, mais ici le cosmonaute, dit Gagarine. Je me sens bien, je suis prêt. Et terre arracho, on va entendre ça tout le temps pendant les enregistrements. Départ dans 1h30, a déclaré le camarade directeur technique. Commence un très long compte à rebours. Plus qu'une heure. Plus qu'une demi-heure, plus que 10 minutes et 5 minutes. Dans son casque, le médecin précise 64 pulsations, système respiratoire à 24, ce qui est parfaitement normal. « Oh oui, je me sens bien », confirme le cosmonaute. « J'ai mis mes gants et mon casque étanche, je suis prêt à partir. » Est-ce que nous sommes prêts à partir avec lui ? Oh oui, je crois que le voyage en vaut la peine.
Au cœur de l'histoire célèbre aujourd'hui sur Europe 1 le cinquantenaire du premier voyage dans l'espace par Youri Gagarine, Franck.
Et avant Youri Gagarine, donc 4 ans plus tôt, 3 ans et demi plus tôt, on avait envoyé une petite chienne dans l'espace, Laïka.
Laïka, oui.
Alors je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai déjà dit à ce micro que Laïka était rentrée vivante et je me rappelle que ça m'avait valu quelques appels. Eh bien j'ai récidivé, comme quoi je veux absolument que ce petit chien ait été en forme. Non, elle est morte dans l'espace, nous signalent plusieurs auditeurs, ce qui prouve que... nous avons des auditeurs très attentifs et je les en remercie. Alors nous sommes de retour sur le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan oriental. L'ordre de départ vient d'être donné cette fois. On entend le camarade Gagarine qui s'exclame une dernière fois « Oshim harasho », donc tout va bien, tout est parfait. Il est 9h07 quand retentit un sifflement, mais alors un sifflement qui n'a pas d'exemple dans ce qu'on peut entendre dans la nature, accompagné de vibrations inouïes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les cosmonautes, avec l'entraînement surintensif qu'ils subissent, sont habitués évidemment à ce genre de situation. Mais ça doit être, on est à la limite du supportable, évidemment. Accélération, mais quand je dis accélération, accélération indescriptible qui écrase le jeune cosmonaute à son siège. 70 secondes se sont écoulées depuis le lancement de la fusée. On signale ça à Gagarine. 70 secondes, lui dit-on. Et là, il n'en revient pas. 70 secondes seulement. Il aurait juré que plusieurs minutes avaient passé. Il le raconte dans... Parce que vous savez qu'il a donné une relation lui-même plus tard, 5 ans plus tard. Il a écrit son premier vol. Et il a eu l'impression que ce départ, ce décollage n'en finissait pas en quelque sorte. « Je me sens très bien, le vol continue », dit-il néanmoins dans le micro. « Les accélérations augmentent encore, mais pour l'instant, tout va bien. » Le cosmonaute interroge le sol sur la situation, le rassure. L'ogive de tête vient de se détacher comme prévu. Vostok 1 quitte déjà les couches denses de l'atmosphère, ça va très vite évidemment. Hein. Le lancement est réussi. Au sol... Dans l'ombre, si je puis dire, parmi les rampants, n'est-ce pas ? Un homme commence à souffler, c'est Sergueï Korolev. Je vous en ai parlé, hein, de cet ingénieur en chef des missiles soviétiques, le maître des fusées en quelque sorte. C'est lui qui a réussi, 3 ans et demi plus tôt, à mettre en orbite le satellite Sputnik 1. « Excellent travail, camarade Sergueï », lui avait dit Khrouchtchev en personne au téléphone, ce qui ne l'avait pas pour autant plongé dans la lumière. Du reste, à l'époque, la Pravda elle-même était restée pour le moins discrète sur l'événement, qui présentait une dimension plus stratégique à l'époque que politique. Faut pas oublier le contexte, on y reviendra tout à l'heure avec Alain Sirou. On est en pleine guerre froide, évidemment. Il n'était pas question à cette époque de faire de l'avance soviétique dans la course à l'espace l'enjeu d'une propagande planétaire. Ça, c'est venu un peu plus tard, vers la fin de l'année 58. Khrouchtchev n'en avait pas moins convoqué Korolev au Kremlin, à l'époque, pour lui demander d'organiser un lancement plus spectaculaire encore, à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution d'octobre. Et c'est pour cela qu'on avait bricolé à la hâte un Sputnik 2. C'est celui-là qui donc était habité par la petite chienne Laïka. Et puis, le 3 novembre 1957, on peut dire donc que Laïka avait été le premier être, je ne sais plus comment dire les choses, mais qu'en tout cas, elle avait été le premier être vivant temps en orbite autour de la Terre, ça c'est incontestable. Les Américains avaient dû, encore une fois, digérer la nouvelle. Ils avaient très vite tenté de combler le fossé, mais alors que l'alter ego de Korolev aux États-Unis, le célèbre Werner von Braun, qui donc avait été soustrait aux Allemands, était une sorte de star, l'ingénieur russe, lui, n'avait pas quitté l'anonymat, j'allais dire, pour autant. Il avait désormais à son actif un des plus beaux titres de gloire de toute l'histoire des sciences. Et là, en ce 12 avril 1961, il voit la nouvelle se répandre. Elle tombe sur les téléscripteurs du monde entier. Les Russes envoient un homme dans l'espace. Nous, ça nous paraît, évidemment, là encore, il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Ça nous paraît presque naturel qu'on envoie des gens dans l'espace. Nous, avec la navette spatiale, c'est même depuis... Vous savez qu'on a cette station, maintenant, cette station spatiale, où les gens se relaient, c'est presque devenu... J'allais dire de la routine, ça ne sera jamais vraiment de la routine. Mais en tout, ça reste extraordinaire. Mais ça ne nous surprend plus. À l'époque, qu'on envoie un homme comme ça, hors de l'atmosphère, qu'on l'envoie dans l'espace, ça paraît une chose incroyable. Là-haut, loin de l'agitation médiatique et politique, le camarade Youri Alexeïevitch Gagarin, par les hublots de son vaisseau, contemple la planète Terre. Il est le premier être humain à pouvoir le faire. Oh, c'est si bleu, c'est si beau. Son émotion est au-delà de l'exprimable. On essaie de lui parler, on lui demande des nouvelles. Lui a les yeux rivés sur cette planète bleue.
Zarathustra de Richard Strauss, extrait de la bande originale du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.
Je vous entends distinctement, je me sens bien, le vol poursuit son cours normal, les accélérations augmentent, je vois très bien la Terre, oh très bien, les nuages, un fleuve, une forêt là, et... On entend cette voix devenue célèbre de Youri Gagarin qui égrène donc ce qu'il voit. On reste en contact avec lui. Il faut imaginer l'émerveillement qui saisit non seulement les techniciens du cosmodrome de Baïkonour en Union soviétique, mais très vite les médias du monde entier et donc les opinions, les populations, le peuple du globe, si je puis dire, qui suit les exploits de cet homme autour de la Terre. Alors, nous, évidemment, en Occident, nous suivrons ses exploits avec un léger décalage, parce que les Soviétiques n'ont pas pris le risque de communiquer immédiatement sur la chose. On aura donc tout en différé, en quelque sorte. Mais les enregistrements, je peux vous dire qu'ils ont été passés en boucle. On les entendra tout à l'heure, parce qu'à l'époque, en 61, Europe 1 officiait déjà, bien entendu, et c'était Albert Ducrot, à l'époque, qui racontait tout ça. Nous avons, nous, Alain Siroux, qui est avec nous aussi aujourd'hui et qui va vous raconter. Alors, Gagarin s'est tu, il ne peut plus parler, même lui, cette espèce de robot humain surentraîné, est dépassé par ses émotions. Quel chemin parcouru pour l'enfant du Kolkhoz de la région de Smolensk, où son père travaillait comme charpentier tandis que sa mère faisait marcher la ferme. Sa vie avait basculé pendant la guerre. Vous savez, un jour, il y a un pilote soviétique qui avait été touché, enfin son avion avait été touché par un pilote de chasse allemand, Et il avait, enfin, je m'exprime décidément mal aujourd'hui, mais l'avion du soviétique avait été touché, en tout cas, par des projectiles allemands. Et il avait dû atterrir de force, et son appareil était resté tout près du village de Youri. Et le petit Youri était fasciné par cette espèce de d'être hors du commun qui avait l'air quasiment d'un extraterrestre. Il racontera plus tard. Je suis resté près de ce pilote toute la nuit durant, parce que lui-même surveillait son appareil, jusqu'au matin, effleurant sans cesse la veste de cuir de cet homme volant, les yeux fixés sur ses belles décorations. Cette journée marqua toute ma vie. C'est ce souvenir fondateur et obsédant qui poussera Gagarine, le brillant élève, mathématicien hors pair en même temps qu'athlète accompli, à s'engager dans l'armée de l'air plutôt que de faire une carrière civile à Aeroflot. Entraînement, vol d'essai, une jeunesse consacrée à l'aéronautique avec à peine quelques récréations pour s'occuper de sa fiancée Valia. Elle lui a donné une fille, Hélène. Il s'inscrit au Parti communiste. Il multiplie les satisfecits de tous ordres. Il s'intéresse au programme spatial qui est le fer de lance de l'URSS en pleine guerre froide. Il postule pour le groupe des candidats cosmonautes. Il est reçu. Et voilà Youri Gagarine promis au plus grand destin. Non seulement il sera héros de l'Union soviétique, mais la lumière qui ce 12 avril 1961 va l'auréoler de gloire ne s'éteindra jamais. Il le sait et comme d'habitude, il sourit.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a tour de contrôle, fusée JTE. Prêt, compte à rebours terminé. Va. Grâce, vous serez seul dans les étoiles glacées.
Vous dites осторожно.
Gérard Palatras sur Europe 1, un homme a disparu dans le ciel, c'est l'adaptation française de Space Oddity de David Bowie sur Europe 1.
Alors tout à l'heure, après le flash de 14h, nous serons donc en compagnie de notre ami Alain Siroux pour développer toute cette affaire, revenir sur cette course entre les États-Unis et l'Union soviétique, course à l'espace et sur ce grand événement qui a eu lieu il y a 50 ans jour pour jour. À Baïkonour, la voix de Gagarine descendue de l'espace annonce la fusée porteuse se détache et cette fois le voilà planant en orbite autour de la Terre. Alors il en profite pour décrire encore le spectacle inédit qui s'offre à lui, ce halo bleu tendre et comme magique qui paraît entourer la Terre comme une gaze bienfaisante. Il est au-dessus du Cap Horn, il le reconnaît bien, il est au-dessus du Congo. Déjà, le pilote automatique met en marche le moteur de freinage. Encore 20 minutes et la capsule touchera la Terre. Gagarine range son petit bloc spatial, difficile à maintenir à cause de l'apesanteur. Il y a écrit ses lignes. Vu de l'espace, le soleil brille avec 10 fois plus d'intensité que vu de la Terre. Les étoiles se distinguent nettement, étincelantes et claires. Tout l'ensemble du firmament est infiniment plus contrasté que ce que nous en voyons depuis la planète. Mise à feu des rétrofusées, Vostok 1 quitte son orbite. Il est 10h25 sur la montre du cosmonaute. Bientôt, la température de l'air, la montre si je puis dire, de bord, la température de l'air au contact de l'engin spatial atteint les 10 000 degrés. L'astronef n'est plus qu'une boule de feu qui tombe rapidement, pour reprendre l'expression même de Youri. Deux possibilités s'offrent au cosmonaute. Atterrir dans la capsule ou s'éjecter. Il choisit la première solution. Et autant qu'on puisse le savoir, hein, parce que vous savez que ce sont les dépêches officielles de l'agence TASS qui nous renseignent. À 4000 mètres, le système d'atterrissage entre en action. Un premier parachute est largué à 2500 mètres pour faire place au parachute de freinage. Vous imaginez le nombre d'opérations délicates, périlleuses qu'il faut accomplir pour aboutir, mais c'est le cas. Ce premier vol habité aura duré précisément 108 minutes, dont 89 en orbite terrestre. Le bon sourire de Youri a dû lui porter chance, car à 10h55, la petite capsule, seul vestige de la fusée Vostok 1, se pose en douceur dans un champ labouré au bord de la Volga. Le cosmonaute s'extirpe de la capsule sous le regard effrayé d'une paysanne et de sa fille qui sont là à côté d'un petit veau. Elles prennent peur, elles se disent mais c'est un extraterrestre, mais il y a trois hommes qui accourent du champ voisin. C'est Gagarine, c'est lui, il est vivant. Il faut dire que depuis une heure, la radio soviétique diffuse en boucle des communiqués officiels et que partout dans les tramways, les écoles, les planétariums, des rassemblements patriotiques se sont effectués où le nom du cosmonaute est acclamé. Le premier secrétaire du parti, Nikita Khrushchev, en personne, lui adresse un télégramme de félicitations dans lequel il ne cite pas le nom de Sergueï Korolev, évidemment. Pour Gagarine, l'heure de la gloire a sonné. Un quadrimoteur escorté de MiG le ramène le 14 avril de Baïkonour au terrain de Voukhnovo, près de Moscou. Khrushchev est là, pour la circonstance, il a interrompu ses vacances au bord de la mer Noire. Il est là avec tout le présidium du parti, l'État, l'Académie, l'Armée Rouge. Il y a aussi son père et sa mère, Evalia, qui sont là, ce petit Gagarine. 1 million de moscovites, peut-être davantage, une immense foule au bras chargé de toutes les fleurs qu'on a pu trouver, s'est massé sur les 5 kilomètres de l'itinéraire officiel jusqu'à la place rouge où l'on n'entend qu'un cri d'enthousiasme, un cri d'amour, Gagarine, Gagarine, honneur au vainqueur du cosmos. Voilà un homme qui en 108 minutes s'est élevé au rang de légende vivante, et pas seulement en Union soviétique, parce que si Khrushchev, dans un discours plus enflammé encore que d'habitude, a salué cette victoire du marxisme-léninisme, en Occident, Gagarine sera fêté, accueilli comme le digne successeur des géants de l'aventure scientifique, les Marconi, les Edison, les Blériot, les Lindbergh.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On retrouve Franck avec son invité Alain Sirou, qui est le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, directeur également en général de l'Association française d'astronomie et consultant scientifique d'Europe 1.
Alain Sirou, que connaissent tellement bien les auditeurs d'Europe 1. Est-ce qu'on peut dire, Alain, que vous êtes un peu le successeur d'Albert Ducrot dans cette fonction-là ?
Pour tout vous avouer, Franck, quand j'étais petit, j'écoutais Albert Ducrot sur Europe 1, et mon grand succès, c'était de l'imiter et de faire comme Albert Ducrot. Alors, vous savez, quand on a marché sur la lune,
c'était magnifique. Eh bien, pour se faire plaisir, on va écouter un extrait, une archive Europe 1, bien entendu. C'est la célèbre voix d'Albert Ducrot qui parle de l'événement. On est à l'époque, on est bien le 12 avril 1961, et c'était sur notre antenne.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarin. Il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus. Le vol continue, tout fonctionne parfaitement, nous continuons, je me sens bien, le moral est bon. Je poursuis le vol, tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Le commandant Youri Gagarin est revenu sain et sauf sur la Terre. Le premier vol humain dans l'espace cosmique s'est déroulé avec un complet succès.
Quel événement extraordinaire, la planète entière en révolution, on peut dire. C'est vrai que c'était un événement qui avait une nature politique, on va y venir dans un instant, mais à la limite, on a très vite dépassé cet aspect-là. Ce qu'on a vu, c'est qu'un être humain était allé là-haut, en fait, Alain Sirou.
Oui, c'était un vieux rêve, un rêve, je dirais, depuis que l'homme existe, celui de voler. N'oubliez pas que, depuis qu'on regarde le ciel, on regarde les oiseaux avec fascination, et on s'est dit, mais si nous aussi, on pouvait voler, si nous aussi, on pouvait accéder, je dirais, aux lampions qui sont accrochés dans le ciel. Et n'oubliez pas, je dirais, depuis au moins Galilée, Newton, Kepler, etc., on s'est mis à rêver. Et au XVIIe siècle en particulier, certains se sont mis à imaginer des machines qui fonctionnaient, par exemple, à l'eau de rosée qui s'évapore le matin et qui permet de monter dans le ciel. Donc il y avait cette espèce de, je dirais, de fantasme du vol qui a été concrétisé au XIXe et au XXe par... Jules Verne, Tsiolkovsky, Wells, et ce sont ces enfants.
Tsiolkovsky, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est l'inventeur du moteur à réaction fondamentale, ça, à partir du moment où on veut parler de fusée et de conquête spatiale.
C'est un Russe, et c'est le premier qui conceptualise vraiment...
On est à quel moment, à quelle époque?
On est au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, et Gagarine va lire Tsiolkovsky. Et Tsiolkovsky, c'était à la fois un rêveur et un ingénieur. C'est le premier qui imagine et qui réalise par des dessins théoriques le vol de la fusée. C'est le père physique de la fusée qui emmènera l'homme dans l'espace.
Il était donc légitime que ce fût un Russe qui, le premier, alla voyager dans l'espace. Vous connaissez bien, vous, Baïkonour, Alain Sirou, vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les amis de Gagarine. Oui. Ça reste le mythe fondateur pour eux aujourd'hui encore.
C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant, Baïkonour. C'est d'abord un endroit mythique. C'est là où 1768 lancements de fusées ont envoyé des hommes dans l'espace, ce qui est extraordinaire. Et puis surtout, vous êtes au milieu de nulle part, dans un désert grand comme le quart de la Belgique, avec des pâtires à perte de vue, un décor à la Bilal, en dessin, pour une histoire finalement à la Blake et Mortimer, c'est-à-dire quelque chose qui confine entre le secret, l'aventure. Vous apercevez au loin un pâtir avec un chameau qui passe devant dans le désert. C'est quelque chose de tout à fait surréaliste et mythique, et quand on est au pied de la fusée, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce jeune homme de 27 ans qui, pour la première fois, s'apprête à monter au sommet d'un monstre dont il sait, et on l'a su bien plus tard, qu'il avait une chance sur deux de rentrer seulement.
Est-ce que ses patrons étaient parfaitement conscients de ce très grand péril ?
Oui. C'est pour ça que Sergueï Pavlovitch Korolev, dont vous avez beaucoup parlé, et qui est le vrai père, couvait Gagarine comme son fils. Il l'appelait l'aiglon. C'était son père cosmique, en quelque sorte. Et il était pétri de trouille à l'idée que ça se passe très très mal. Et Gagarine, qui lui était un garçon qu'on avait... On a envie d'être copain avec Gagarine,
oui,
tout le temps.
Oui, il était très sympathique. Oui.
C'est l'ami. Et une heure avant de monter dans la fusée, il essayait de rassurer Korolev, et Korolev disait « Vous vous rendez compte, c'est lui qui s'en va, c'est lui qui prend les risques, et c'est lui qui me rassure. »
C'est moi qui ai peur, en fait. Ce secret dont vous parlez, ces difficultés, ce secret n'a été levé que très récemment.
Oui.
Je lisais ce matin même que certains documents concernant le vol de 1961 n'ont été livrés là aux chercheurs qu'en 2011. Donc là, vraiment, il y a quelques semaines. Donc, on était au cœur quand même d'un enjeu de guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre qui certes n'est pas une guerre ouverte, mais qui est une guerre froide, extrêmement dure, entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Absolument. Il ne faut jamais oublier que l'essence, la base de l'exploration spatiale, c'est la guerre. Parce que simplement, le lanceur, le vecteur, comme disent les militaires, finalement, il n'est pas du tout destiné au départ à emmener ni des satellites, ni des hommes, mais à transporter une bombe thermonucléaire de la Russie sur les États-Unis. Donc c'est un missile stratégique. Et ce qu'a réussi à faire Korolev, finalement, c'est un petit peu à détourner, parce qu'il était passionné, lui aussi, par les histoires de Jules Verne qu'il avait lu, par Wells, par Tsiolkovsky, comme Werner von Braun d'ailleurs. Ce sont en quelque sorte des hommes qui ont petit à petit essayé d'utiliser en fait une arme de guerre extrêmement sophistiquée, complexe, en se disant, bon, si en même temps on pouvait mettre un petit vaisseau, et c'était les cas de Sputnik, pour envoyer ça dans les étoiles, pourquoi pas ? Donc ils vont réussir, et en particulier c'est le cas de Korolev, des premières extraordinaires qui vont marquer le pouvoir politique. Quand Khrouchtchev découvre le bruit que fait le bip-bip de Sputnik en 1957.
C'est la plus belle propagande du monde.
Fantastique.
Ça. Ce bip-bip qui va faire le tour de toutes les radios de la planète pendant 3 jours. Quand
L'Union
même.
Soviétique en tête dans l'espace.
Et
pour les Américains, ça s'appelle un flopnik. Et ils sont immédiatement convoqués en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On crée de toute urgence la NASA. On imagine...
Ça va coûter sa présidence, enfin pas sa présidence, mais sa réputation au président Eisenhower. En
absolument. Et comment dire, Kennedy va mettre la barre à un point extrêmement élevé, puisqu'il va demander et exiger qu'on aille sur la Lune et qu'on revienne sain et sauf.
Avant la fin de la décennie, avait-il dit, et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, les Américains ont relevé ce défi et ont réussi le pari du président Kennedy.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Je regarde en bas de l'autre côté de l'atmosphère. C'est bizarre de se dire qu'il y a tant de frontières. Vu d'ici vraiment, il n'y a pas grande différence entre la Mandchourie, le Texas, la Provence. La conquête de l'espace, c'est l'avenir des humains. C'est pourquoi on lésine, pas sur les moyens. La preuve, mon scaphandre vaut tellement de fric qu'avec on pourrait soigner la moitié de l'Afrique. Je voulais quitter la terre, j'avais pas tort en fait. J'ai plus le mal du pays, j'ai même plus le mal de la planète.
Benabar sur Europe 1 avec son titre dans la station Mir, Franck.
Oui, c'est assez indiqué quand même. Alors l'autre soir au Palais de la Découverte, on a eu un événement un peu étonnant puisqu'il y a eu un duplex établi avec la station internationale spatiale. Il y avait sur place au Palais de la Découverte à peu près tous les astronautes français, beaucoup de héros de l'Union soviétique justement qui étaient venus barder de toutes leurs décorations. Tout ça pour l'inauguration d'une exposition de photos qui donc au Palais de la Découverte évoque cette révolution Gagarine. L'exposition sera présentée jusqu'au 28 août prochain. C'est sur la mezzanine du Palais de la Découverte et par la même occasion, c'est pas Alain Sirou qui me contredira. C'est une bonne occasion d'aller visiter cet endroit qui est à l'origine de beaucoup de vocations scientifiques. Pour les jeunes, c'est formidable ce Palais de la Découverte, et pour les moins jeunes aussi du reste. Alors nous étions avec Lorena Martin qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Nous étions sur place, bien entendu, au Palais de la Découverte, et nous avons rencontré un certain nombre de personnalités qui nous ont raconté ce qu'était pour eux Gagarine. Alors on a d'abord posé la question à Léopold Eartz, qui est astronaute à l'Agence spatiale européenne, et avant au CNES, bien entendu. Qui était pour vous, Léopold Eartz, Gagarine, quel rôle a-t-il joué? Voilà la question que je lui ai posée.
C'est une idole de ma jeunesse, puisque avec lui et Neil Armstrong, donc qui a marché sur la Lune, c'est les personnages que j'admirais le plus lorsque j'étais enfant. J'avais 10-12 ans lorsque... Enfin, j'étais un peu plus jeune lorsque Gagarine a volé, mais lorsque Armstrong a marché sur la Lune, j'avais 12 ans. Ce sont des personnages, des légendes qui m'ont donné un rêve, en fait. Son personnage a été utilisé pour la propagande. Ceci dit, je crois que ça n'enlève rien à ses qualités de fond, qui sont avant tout le courage, la conscience d'être quelqu'un qui faisait une chose unique au monde, être le premier, être un pionnier dans le domaine du vol habité. Donc beaucoup de courage et puis aussi une âme de pionnier.
Une âme de pionnier. Et alors nous avons aussi pointé notre micro vers Thomas Pesquet, qui lui est un tout jeune astronaute de l'Agence spatiale européenne. C'était intéressant de savoir ce que pour un astronaute d'aujourd'hui, de cette toute nouvelle génération, représentait Youri Gagarine.
Pour nous, pour les astronautes de dernière génération, on va dire, Gagarine, ça reste un mythe, évidemment. C'est une date fondatrice, en fait. C'est l'instant T0 de l'exploration spatiale. Bon, évidemment, il y a eu des choses avant, mais disons que tout ce qui s'est passé après, ça a été très différent, parce que ça a rendu des tas de choses possibles. C'est un peu... C'est pas pour être biblique, mais c'est vraiment l'année zéro de l'exploration spatiale. Donc moi, quand je regarde en arrière, depuis les années 2000, avec ma génération, mon expérience, je regarde ça comme vraiment une date fondatrice, une origine. Et on a évidemment beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les pionniers, dont Youri Gagarine. On vient de fêter aujourd'hui 10 ans de présence humaine ininterrompue dans la station ISS. Donc on n'est plus dans la phase où on envoyait des pionniers avec le côté romantique que ça pouvait avoir, exploration. Maintenant, on fait vraiment de l'appropriation de cet environnement. Mais on va revenir vers cette phase-là, parce que maintenant que cette orbite basse terrestre, on la connaît, on va aller voir plus loin. On a eu des explorateurs qui sont allés sur la Lune, mais ils sont revenus, c'était très bref. Maintenant, on va aller vers d'autres destinations, on va s'y installer, on va s'approprier ces nouveaux environnements. Et puis, au fur et à mesure, quand le champ d'action des astronautes professionnels, des professionnels de l'espace va s'éloigner de la Terre, et bien ce domaine proche de la Terre, il va être ouvert pour les gens normaux, j'ai envie de dire, pour Monsieur Tout-le-Monde, même si Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas se payer un billet de Soyouz ou chez Virgin Galactic, mais on entre dans une autre ère où maintenant c'est la sphère privée qui va prendre un peu possession de cet espace proche, et nous les professionnels, on va aller voir un peu plus loin.
Thomas Pesquet, donc astronaute à l'Agence spatiale européenne, au micro d'Europe 1. Alors, un de nos auditeurs, c'est Simon, nous demande quel âge avait Gagarine quand il est parti dans l'espace. Donc 27 ans, hein, je le redis clairement. Il était évidemment, c'est pas le genre de voyage qu'on peut s'autoriser après un certain âge. Et quand est-il mort, nous demande-t-il, Alain Sirou.
Il est mort très peu de temps après, 1968. Voilà. Et juste une petite remarque, vous savez que l'astronaute le plus vieux à avoir volé, c'est John Glenn, qui avait 81 ans quand il est reparti dans l'espace à bord de la navette.
Après tout, c'est vrai.
Gagarine, c'est une vol filante. Hein,
c'était magnifique d'ailleurs ce vol de John Glenn.
Ah, très beau, il avait attendu tellement longtemps. Oui, oui. Gagarine, c'est des vols filantes, c'est vraiment un jeune homme qui apparaît, un peu luciole hein, dans le ciel soviétique.
Alors, on va revenir un peu sur lui. D'ailleurs, vous lui consacrez, hein, là, dans Ciel et Espace, un dossier dans le numéro d'avril. Ce personnage de Gagarine, tellement célèbre, devenu tellement mythique, en fait, quand on l'approche d'un peu plus près, il pose quelques questions, évidemment. Ouais. Alors, d'abord, il est devenu une sorte d'ambassadeur de l'Union soviétique pendant 3 ou 4 ans, juste après son exploit, bien entendu. On l'a vu partout, y compris ici à Paris, bien entendu. Il était un peu l'image, la vitrine du régime.
C'est l'icône idéale.
L'icône.
C'est vraiment parfait. C'est l'ambassadeur tombé du ciel. Ah, tous les points de vue.
C'est-à-dire que
alors, il est juste accompagné d'un général du KGB. Il est sous surveillance. Alors, ça veut pas dire qu'il est, un personnage dangereux qui peut faire n'importe quoi. Pas du tout. Mais simplement, il représente l'Union soviétique et il est le meilleur à parler de ce pays qui, parce qu'il y croit vraiment, parce qu'il est né, parce que c'est un enfant soviétique. Il est aussi, on dirait, une sorte d'alchimie merveilleuse à ce moment-là. N'oubliez pas qu'il a été fondeur, élève fondeur, qu'il a un diplôme d'ingénieur, que c'est un aviateur. C'est un tout petit bonhomme. Vous savez qu'une des choses les plus cachées sur Gagarine, c'est
grand,
sa taille.
Ouais.
1,59 m. Alors, on ne donnait pas sa taille simplement pour pas donner des informations sur le vaisseau spatial dans lequel il était parti. Et puis, Youri Gagarine, c'est le copain qu'on a envie d'avoir. C'est celui qui est... Alors, c'est son pote Léonov, premier piéton de l'espace, qui disait... Dans une pièce, vous ne pouvez voir que lui, même s'il ne se montre pas.
Ce qu'on appelle le charisme, ça.
Charisme, et je n'ai jamais connu autant de gens qui l'appréciaient, de gens différents qui l'appréciaient. Donc c'était vraiment, je dirais...
Alors on l'empêche de voler pendant longtemps, parce qu'on veut tout simplement le protéger, on veut qu'il ne lui arrive rien, c'est ça.
Oui, puis n'oubliez pas que c'est extrêmement dangereux.
C'est
il avait effectivement une chance sur deux de ne pas revenir, il est revenu, mais quand on va tenter une seconde fois, je veux dire... Parce qu'il récrimine, parce qu'il veut voler, parce qu'il est pilote. Il a très peu volé avant de partir. Il a 240 heures de vol, c'est rien, avec des avions. Il est inscrit comme équipage de remplacement, c'est-à-dire doublure de Komarov qui va voler sur le premier Soyouz 1. Eh bien, Komarov va mourir dans l'espace. Et Komarov, on le sait aujourd'hui, savait qu'il n'avait pratiquement aucune chance de partir. Et il est parti. Car s'il ne l'avait pas fait, c'est Gagarine qui
aurait dû partir à sa place. Oui. Il va néanmoins de nouveau piloter, mais alors des avions hein, cette fois, donc des MiG évidemment, dans les années 67-68.
Oui.
Et c'est au cours d'un de ses vols qu'il a un accident. Alors avant l'accident, on avait, ce sont évidemment les médias occidentaux, on n'a jamais rien vu de tel dans toute la presse soviétique, mais on disait qu'il buvait, qu'il se comportait plus ou moins bien, qu'il avait perdu son célèbre sourire.
Écoutez, c'est exactement comme Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune. Il a dit le plus dur, et ce pourquoi ne m'a pas formé la NASA, c'est finalement... parcourir le monde.
Eh oui.
Il se réveillait tous les matins dans un pays différent. Il allait serrer la main à Nasser,
à la reine d'Angleterre,
etc. Il était très bien d'ailleurs à Buckingham avec le personnel de la reine d'Angleterre qui l'a salué. Tout le monde a applaudi. C'était un très beau représentant. Mais c'était pas ça qu'il voulait faire. Donc il voulait vraiment voler. Donc on lui a donné des hochets. Et puis après on a dit bon d'accord, allez, vas-y, passe ton diplôme, repasse le brevet de pilote et vas-y. Donc c'est au moment où il allait conclure par un dernier vol avec un instructeur
qui avait 45 ans, qui était un homme extrêmement expérimenté, lui de son côté.
Tout à fait. Qu'il a disparu très près de Moscou, finalement, dans des conditions. Et n'oubliez pas que l'Union soviétique à l'époque, c'est le pays où les avions ne tombent pas. Donc, en plus, une icône disparaît, nécessairement, ça ne pouvait être qu'auréolé de mystère. Donc, les enquêtes ont eu lieu, mais on a su que très tardivement ce qui s'était passé.
On a inventé à l'époque cette thèse selon laquelle, pour ne pas endommager une école, en fait, Gagarine aurait refusé lui-même de s'éjecter, etc. Enfin, on en voulait en faire une sorte de surhomme, évidemment. Il fallait pas du tout écorner le mythe. Donc, on a inventé toutes sortes de choses. On se rend compte que c'est un accident beaucoup plus banal qui l'a emporté.
Beaucoup plus banal. A priori, c'est vraisemblablement beaucoup d'erreurs au sol et d'instruments, en particulier la hauteur de l'avion par rapport au sol, les instruments défectueux, et puis peut-être la présence d'avions qui n'étaient pas connus dans la zone. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont montré que les deux pilotes, et surtout l'instructeur qui était très expérimenté, n'a pas pu se sortir d'une situation complexe. Mais la rumeur a inventé effectivement l'alcoolisme, a aussi inventé qu'il était en hôpital psychiatrique pour avoir insulté le secrétaire général du Parti communiste. Donc on a été très loin.
Gagarine meurt donc à 34 ans, oui. Mais ses camarades, eux, pour une grande partie d'entre eux, ont survécu. Ils sont toujours là aujourd'hui pour témoigner.
Ils sont toujours là et ils racontent, Gagarine intime, ils racontent comment cet homme finalement avait des doutes, des certitudes, était enflammé. C'était ce qu'on appelle un aiglon, c'est-à-dire c'était vraiment toujours dans cette idée d'épopée de l'homme qui va sortir, comme disait Tchaïkovski, l'homme qui va quitter le berceau, l'humanité quitte son berceau, et cet homme qui le premier s'envole, c'est sans doute le plus beau et celui qui brûlera en premier.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1.
On continue à s'intéresser à la conquête spatiale soviétique, Franck.
Alors, soviétique et américaine, parce qu'en fait, c'est bien une course que se sont livrés ces deux géants de l'époque. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques semaines seulement après le vol habité soviétique, il y a eu un vol habité américain dont personne n'a parlé. C'est quand même étonnant.
Alan Shepard, quelques semaines plus tard, qui a fait un saut de puce, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tour de la Terre. Il a été expédié grâce à une fusée Redstone à 160 km d'altitude, puis il est retombé comme un vulgaire caillou. Ça faisait miser.
Oui, donc on a préféré peut-être ne pas trop en parler.
Non.
Les Américains ont quand même assez vite pris leur revanche néanmoins.
Ils ont pris leur revanche, mais toutes les premières pendant plusieurs années ont été soviétiques. N'oubliez pas, Sputnik, Laïka, Gagarine. Entre le lancement de Sputnik 57 et le premier homme dans l'espace, il se passe 4 ans, c'est rien. Et puis ils vont envoyer une sonde autour de la Lune, première photo de la Lune, premier engin à se poser sur la Lune, première femme cosmonaute, Tereshkova, qui a été malade dans l'espace et Korolev disait « Je ne veux plus jamais de nada dans l'espace !» Donc il s'est passé beaucoup de choses avant que les Américains prennent le dessus très sérieusement.
Et grâce à la Lune, finalement, c'est ça qui va...
Ils ont marché sur la Lune, ils sont revenus. Même Gagarine avait été inscrit sur un programme, justement, pour aller sur la Lune. Mais là, la dissension entre les ingénieurs et Korolev, malheureusement, est décédé à l'occasion d'un accident pour le compte d'opération. C'est le ministre de la Santé qui avait estimé que le personnage était tellement important qu'il voulait l'opérer lui-même. Mais un ministre, ça n'a plus beaucoup d'expérience, plus beaucoup d'habitude.
Oui,
donc, Korolev est mort sur le billard et le parti... n'a pas trouvé son remplacement, des bagarres internes.
C'est d'ailleurs intéressant que plusieurs auditeurs nous aient demandé ce qu'était devenu Gagarine, mais que personne ne soit posé la question de savoir ce qu'avait bien pu devenir Korolev. Hein, c'est curieux, on attache toujours son intérêt au sourire et à la jeunesse, finalement.
L'homme de l'ombre.
L'étape suivante, ce sera bien entendu la navette spatiale. Alors là, c'est...
Oui. Oui, absolument, parce que
c'est le début des années 80.
C'est début des années 80, et en fait, la course, je dirais que la course à l'espace qui était une guerre, finalement, va devenir aussi un endroit où on se tend la main. C'est-à-dire qu'on a été tellement loin. N'oubliez pas que les Américains ont dépensé pratiquement 3% du PIB du pays pour aller sur la Lune. L'Union soviétique n'a pas pu suivre. À un moment donné, ça s'est effondré. Et donc, toute l'expérience
d'ailleurs,
acquise...
D'ailleurs, l'initiative de défense stratégique, hein, le programme spatio-stratégique du président Reagan va jouer un rôle essentiel dans la perestroïka de Gorbatchev et à terme dans l'effondrement même de l'Empire soviétique.
Absolument. La barre était très haute. Et la connaissance des soviétiques dans les technologies à la fois militaires et de vol spatial était extrême. Il fallait pouvoir continuer à travailler avec eux. Donc, la navette spatiale et puis ensuite, la station internationale va être l'occasion de
d'atteindre la Mars. C'est ça, d'occupation sans.
Oh, là, on en est maintenant. C'est permanent, c'est-à-dire qu'on a 6 hommes en permanence, ouais. Et je dirais jusqu'en 2020 au moins. Ouais, voilà, donc c'est l'occasion de tendre la main. Et puis, il ne peut plus. Parce que ce moteur, 10 ans de vol habité, il ne peut plus y avoir, je dirais, de nation seule pour des grandes destinations. Le jour où on ira sur Mars, ça sera nécessairement une mission spatiale internationale. Et en ce moment même, à Moscou, vous avez des Européens, des Chinois, des Russes qui sont enfermés pour mimer ce vol. Eh bien, je dirais que c'est peut-être la petite fenêtre que l'on a en ce moment même à Moscou sur le futur, peut-être la fin du 21e siècle.
La Terre est un village, finalement. Donc, 50 ans plus tard, il y a encore de l'espoir du côté de l'espace. C'est Louis qui nous conseille par Internet d'aller sur YouTube. Il dit qu'aujourd'hui, il y a donc une icône du jour sur Gagarine, qu'il suffit de cliquer là-dessus et qu'on voit des images superbe de ce premier vol habité. C'était le 12 avril 1961, il y a donc 50 ans, jour pour jour. Merci beaucoup Alain Sirou.
Merci beaucoup.